En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Lorsque l'on prend l'avion, juste avant de décoller, les membres de l'équipage nous rappellent quelques mesures de sécurité afin de bien réagir en cas de turbulence. Nous voilà embarqués dans le carême à destination de Pâques. Et il va y avoir des turbulences. Le démon a une haine profonde du carême. Il sait que Dieu alors accorde pendant ce temps, avec une plus grande abondance, toute sa grâce. Il sait que nous pouvons racheter toutes nos lâchetés passées, effacer toutes nos négligences, obtenir la conversion de beaucoup d'âmes et avancer à grands pas dans la vie spirituelle. Alors il déploie furieusement ses ruses pour nous tendre des pièges. Au début de ce carême, je vous propose de voir si nos résolutions sont bien accrochées et comment Satan va s'y prendre afin de mieux savoir comment réagir. Pour nous faire chuter, Satan va essayer de nous faire avaler trois mensonges. Dieu t'a abandonné. Tes péchés sont sans conséquence. Et tu n'as pas à souffrir la croix. Tu es seul car Dieu t'a abandonné. C'est la première tentation. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Il est fatigué, il est affamé. Et le diable lui propose de changer les pierres en pain. Et en soi, ça ne pose pas de problème. Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains pour une foule affamée sur le point de défaillir? Non. En fait, ce qu'insinue le diable, c'est ceci. Tu as séché au soleil pendant 40 jours et Dieu n'a toujours rien fait pour toi. Tu es dans l'épreuve et il t'a abandonné. Ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de lui. Ne lui fais pas confiance, ne lui obéis pas. Tu as une mission à accomplir. C'est injuste ce qui t'arrive. Dieu t'a abandonné. Je n'ai pas de saveur dans mes prières. J'avais bien la ferveur au début du carême, mais ensuite la fatigue est venue. Je ne ressens plus rien. Je ne suis pas exaucé. Je fais tout pour respecter les commandes de Dieu, mes résolutions. Et aucune récompense, aucun progrès. Je commence à croire que Dieu ne s'occupe pas de moi, qu'il ne fait pas ce que je veux, qu'il m'ôte ce que j'aime ou me fait souffrir. Il y a des moments où il est bon de demander que les choses s'améliorent. Si j'ai une difficulté avec mon époux, avec un camarade de classe, dans telle situation, il est bon de demander à Dieu son aide. Mais ce que le diable veut faire, c'est mettre la rébellion dans nos cœurs. Je n'en peux plus de ce travail-là. Je n'en peux plus de cette femme-là, de cette vie-là. Je suis écœuré. Quand cette pensée vient en nous et que nous la faisons nôtre, le diable gagne. Il veut que nous doutions. Dieu ne s'occupe pas de toi. Il t'a oublié. C'est injuste ce qui t'arrive. Révolte-toi. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, répond Jésus. Nous sommes incapables de lutter seuls contre le démon, et il le sait. Il fait donc tout pour nous détacher de Dieu. Une fois qu'il nous a refroidis dans la prière, qu'elle n'est plus fervente, qu'elle est beaucoup moins fréquente, eh bien il nous fait tomber beaucoup plus facilement. C'est plus facile de nous frapper quand nous sommes seuls. Et c'est exactement comme ça qu'il tente Ève. Il choisit le moment où elle est seule. Où elle n'est plus avec Adam. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, dit Jésus. Toute notre force réside dans notre union à Dieu par la prière. Approchez-vous de Dieu, le démon s'enfuira, dit Saint Jacques. Aussi, il faut veiller avant tout à la qualité de notre prière. Et nos difficultés dans la prière viennent souvent de ce que nous ne la nourrissons pas, pour la nourrir, pour la soutenir, pour qu'elle demeure un cœur à cœur avec Dieu. Il faut que nous la nourrissions de la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ce peut être la lecture plus régulière de la Bible. Ce peut être une conférence spirituelle que l'on écoute. Ce peut être une vie de saint. Qu'importe. Pour aider leurs enfants, les parents peuvent lire la Bible. Une Bible pour enfants ou alors des vies de saints. Le meilleur moment, c'est peut-être juste avant la prière en famille ou le soir avant de se coucher. Nous avons attaché la ceinture de la prière et mis le masque à oxygène. Deuxième problème qui peut surgir, ou deuxième mensonge du démon. Péché, est-ce en conséquence? En haut du temple, il propose à Jésus de se jeter en bas. Juste avant la tentation, lors du baptême de Jésus, Dieu avait déclaré qu'il était son fils bien-aimé. Il ne permettra donc pas qu'il t'arrive du mal. En fait, Jésus démasque la ruse. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Faire cela, c'est tenter Dieu. Pécher, c'est s'exposer à un grave danger. Et le démon fait tout pour que nous oublions ça. Jette-toi en bas. Cela sera sans conséquence. Pas du tout. Vous ne mourrez pas, disait-il à Ève. Or, ce qui est en jeu dans le péché, c'est mon salut éternel. Ève est attirée par le fruit, au point qu'elle oublie le « vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez ». Pourquoi l'oublions-nous? Pourquoi oublions-nous que le péché tue notre âme? Parce que comme Ève, nous regardons les aspects agréables. Le démon est un séducteur. Et pendant le carême, il va tout faire pour que nous oublions nos peines, que nos fautes présentes ont des conséquences éternelles. Et nos fautes passées nous ont mérité des peines que nous n'avons rien à racheter. Le diable est le mauvais génie de l'irresponsabilité. La suite du récit de la Genèse est géniale pour ça. C'est pas moi, c'est la femme. C'est pas moi, c'est le serpent. Parents, éducateurs, prêtres, notre rôle est d'apprendre aux enfants qui nous sont confiés qu'il faut regarder le prix à payer, connaître les conséquences de nos actes, notre responsabilité. Et il y a deux moyens de bien le faire pendant le carême, et pour contrer ainsi le démon sur ce point. D'abord, bien veiller à notre examen de conscience le soir, en demandant à Dieu une vraie contrition, le vrai regret surnaturel de nos péchés que lui seul peut nous donner. Ensuite, recourir au sacrement de confession. Et le début du carême, tout particulièrement bien pour se mettre sur les bons rails. Il y aura une deuxième confession avant Pâques, sera aussi une bonne résolution. J'avais promis à certains garçons du patro, mercredi, une histoire. Je la raconte maintenant. Il y a quelques mois, lorsque j'étais dans la rue, alors mitouflé parce qu'il faisait froid, mais j'avais ma soutane, donc j'étais visible comme prêtre, une femme m'aborde. Et je sens qu'il y a quelque chose, mais que ça n'arrive pas à sortir. Nous échangeons nos numéros. Et quelques mois plus tard, mardi dernier, la veille du mercredi des cendres, je reçois un message. Mon père, est-ce que je peux vous parler? Cette femme n'est pas catholique. Elle est protestante, évangélique. Et le drame dans sa vie, c'est que les protestants n'ont pas le sacrement de confession. Ils ne peuvent pas recevoir le pardon de Dieu par le prêtre. Ils essayent bien de se raconter leurs péchés pour essayer de les exorciser, mais ils ne peuvent pas venir recevoir le pardon de Dieu. Et son péché était tellement honteux pour elle qu'elle n'osait pas en parler aux autres. Et le diable faisait tout pour qu'elle le garde, pour qu'elle soit accablée, honteuse, qu'elle soit enfermée dans son péché. Jésus sait ça. Jésus sait combien Satan veut nous enfermer dans notre péché. Et c'est pour ça qu'il a voulu le sacrement de confession, avec toutes les facilités possibles pour que nous puissions venir. Le secret de confession permet justement qu'aucun de nos péchés ne puisse pas être pardonné. Ayons recours à ce sacrement, c'est une grâce que d'autres n'ont pas. Alors courons, prenons-le. En cas de feu et de fumée dans l'avion, donc nous avons bien vu qu'il fallait se mettre à genoux et pour voir les marquages lumineux au sol. Deuxième indication de l'équipe, de l'équipage. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. La troisième tentation paraît grossière. En fait, nous faisons deux erreurs communément. La première, c'est lorsque nous entendons se prosterner devant Satan, nous pensons rendre un culte satanique. Nous pensons appartenir à une secte, faire des sacrifices ignobles. Mais adorer Satan, ce n'est pas d'abord ça. Adorer Satan, c'est refuser la parole de Dieu pour suivre une autre parole qui, ultimement, est celle de Satan. Nous sommes soumis à celui à qui nous obéissons. Et Dieu le montre bien lorsqu'il dit à Saül, « C'est l'obéissance que je veux, non les sacrifices. » Et plus loin, « La désobéissance est aussi coupable que la divination. » Se prosterner, cela signifie refuser l'obéissance à Dieu. La deuxième erreur, c'est que nous pensons que dans cette tentation, Satan essaye d'acheter Jésus. Il essaye de lui proposer des richesses, des pouvoirs. Il lui propose de régner sur tous les royaumes de la terre. En fait, ce qu'il lui propose, c'est une solution de facilité. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a promis de régner à Jésus. « Demande et je te donnerai les nations en héritage. » Il a tout mis sous ses pieds. Satan lui propose la même chose, mais sans la croix. Tu n'as pas à souffrir. Le diable ne veut pas que nous choisissions la croix, que nous renoncions à nous-mêmes. Il redoute la croix dans la vie du chrétien. Satan veut que nous affirmions nos désirs, que nous ne pensions qu'à nous, à notre bonheur terrestre, à notre subsistance, à notre carrière, à nos loisirs, à nos jeux, à nos relations, et que nous nous efforcions de trouver tous les moyens de les accomplir. Qu'on pense tellement à nous-mêmes qu'on voudrait que les autres soient centrés sur nous-mêmes. Il veut qu'à nos yeux, la notion de sacrifice soit répugnante, la notion de mort à soi-même soit désagréable. Tes efforts de carême commencent à te peser. Abandonne-les. Voilà qu'on te propose des choses agréables. Un événement imprévu, un dîner, une soirée, un film plaisant sort au cinéma, alors que tu as pris comme résolution de ne pas regarder de film pendant le carême. Tes amis y vont en plus. Tes résolutions commencent à devenir gênantes. Arrière, Satan. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Nos épreuves n'arrivent pas fortuitement. N'ayons pas une vision de Dieu qui ne nous éprouve pas. Dieu fait venir des déserts dans nos vies. La tentation au désert a révélé que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, uni indéfectiblement à son Père. Nos épreuves servent à vérifier la qualité de notre foi, la solidité de notre attachement à Dieu. Dieu le connaît, lui. Mais il veut aussi que nous en prenions conscience, que nous prenions conscience d'où nous en sommes dans notre relation avec lui. Mes efforts de carême me révèlent ce que je préfère entre la nourriture et Dieu, entre mon confort et la voie que Dieu me trace avec la croix, entre ce que je veux et ce que Dieu veut, entre ma vie et ce que Dieu veut. Est-ce que je suis vraiment un fils de Dieu, uni indéfectiblement à mon Père ? Tout au long de ce carême, Dieu ne me pose qu'une seule question. Où en es-tu de ton amour pour moi ? Frères et sœurs, je vais dire un gros mot. Il est bon que nos résolutions de carême nous fassent mal. Je ne dis pas que l'on doit boiter physiquement, que l'on doit être incapable d'accomplir son devoir d'État. Cela, au contraire, serait tenter Dieu. Ne pas porter tels habits qui me plaisent, me mettre en valeur, me rendre séduisant, peur parfois faire plus mal que 10 jeûnes. Mais si cela ne fait pas mal, si le carême se résume à pas de chocolat, ou ses équivalents, le diable a gagné, en fait. Certes, j'ai montré que je préférais Jésus au chocolat. Mais en fait, tout le reste, je préfère tout le reste à Jésus. Le Christ, le Fils de Dieu, flagellé, agonisant sur la croix. Tout ça pour du chocolat. En fait, Saint John Henry Newman a écrit un magnifique sermon sur le samedi saint. Voici ce qu'il disait en substance. « Seigneur, nous voici arrivés à la fin du carême. Nous voici juste avant Pâques. Nous sommes fatigués. Nous sommes irritables. Je ne dis pas irrités. Nous voyons combien nous sommes pécheurs. Seigneur, merci, parce que là, nous mesurons que nous n'avons pas mérité la grâce de Pâques. Nous méritons, nous voyons que c'est un don, un pur don de Dieu. Tout le carême consiste à prendre conscience que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la grâce de Pâques. Nous ne pourrons racheter nos lâchetés passées, effacer nos négligences, obtenir la conversion de beaucoup d'âmes et progresser rapidement dans la vie spirituelle que si nous sommes d'autres Jésus, que s'il vient vraiment en nous, que si nous lui faisons cette place. Tout le but du carême est là. Tous nos efforts doivent tendre à ça, ressembler davantage à Jésus, afin d'aimer Dieu comme un autre Jésus. Amen.